Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine sportmédiable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Forest, Gérard Winter et Ricardo Baroni. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, du rugby avec les premiers test matchs de la tournée d'été, du tennis avec le bilan de la première semaine à Wimbledon et du cyclisme avec le début du Tour de France. Nous commenterons en deuxième partie d'émission les autres résultats sportifs de la semaine et nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. Pierre Forest, on va commencer avec vous et avec le rugby. La presse néo-zélandaise a passé la semaine à tirer à boulet rouge sur l'équipe de France, son encadrement et le fait de ne pas envoyer les titulaires indiscutables. Je pense qu'elle a changé d'avis à l'issue de ce premier test, non ?
Oui, je crois. Alors, parler de rugby, parler du premier test, il n'y avait rien de plus logique, hein, puisque cette tournée elle était prévue depuis de longues dates. Mais comme de plus en plus les compétitions au niveau de l'hémisphère nord, et notamment la finale du top 14 se termine vers la fin du mois de juin. Évidemment, ce n'est pas l'équipe premium qui part, mais ça, l'encadrement tricolore en profite pour faire tourner un maximum. Alors, c'est vrai que la polémique, elle a surtout porté par le fait que l'équipe de France n'a pas amené l'équipe type, qui était très difficile à répondre. Mais surtout relayé par un ancien international de l'All Black, Justin Marshall, que les connaisseurs ils en souvenir. Donc, en parlant de non-respect du rugby néo-zélandais, etc., etc. Et puis, ça a motivé les jeunes bleus. Alors, ça les a motivés. Et puis, on a vu cette belle prestation. Donc, ils perdent de
31-27, de 4 points.
Ils auraient pu l'emporter sur la dernière phase. Malheureusement, c'est Romain qui a fait un en avant. Mais en même temps, sur le vu du match, il y a eu 3 essais refusés aussi aux Néo-Zélandais. Mais voilà, donc on ne peut pas dire que c'était une équipe bis, puisque c'est quand même une équipe avec certes 8 nouveaux capés pour première sélection. Et en plus, contre les Blacks chez eux. Donc, ça, c'est un sacré souvenir.
Un beau baptême,
comme on dit. Mais ils étaient encadrés par des joueurs chevronnés, quand même. Hein. Il y avait
Gaël Ficou en capitaine, notamment.
Il y avait Guillard qui progresse extraordinaire. Il a fait le tournoi destination comme deuxième ligne. Et puis, c'est son poste habituel à Lyon. Et là, on l'a fait descendre en 8. Il a été extraordinaire. D'ailleurs, ça a été le meilleur avant, c'est Guillard. Et le meilleur trois quarts, on n'en parle pas assez, mais c'est le jeune Atisobe. Lui aussi joue trois quarts aile.
Qui a joué à l'arrière.
Il a fait quelques apparitions en équipe de France. Qui joue à l'aile, surtout en club. Mais là, Galtier l'a fait descendre d'un cran suite à la blessure de Barré. Et donc, qui a donné toute satisfaction. D'ailleurs, les journaux néo-zélandais parlent maintenant du remplaçant de Blanco, du nouveau Blanco. Enfin bref, cette équipe-là, malgré son jeune âge, elle était quand même... je crois que ça montre deux choses. Un, le réservoir du rugby français. Il y avait au moins une quarantaine de titulaires en puissance absents pour cette tournée, une quarantaine. Si on regarde les effectifs des deux équipes finalistes et des quatre équipes avec les demi-finalistes également. Donc il y avait une quarantaine de joueurs potentiels qui n'ont pas pu faire la tournée, mais ça montre le réservoir et puis c'est extraordinaire, quoi. C'est bien. Donc là, un groupe de 42 joueurs qui va être complété ou qui va être à 42 complété par l'arrivée
des cinq joueurs
finalistes,
des Béglés et des Toulousains et
trois de l'UBB.
Donc, pour le deuxième test, samedi prochain.
Voilà. Et on peut peut-être regretter que sur les trois tests que les Français devaient disputer, il y a peut-être celui-là qu'on aurait pu gagner, puisque en même temps, les Néo-Zélandais en étaient à leur premier test de leur saison. Leur véritable saison commençait avec les Français le week-end dernier. Ils ont encore 12 tests match derrière, donc ils vont terminer, je pense, en Europe contre le Pays de Galles.
Et ça, un tournée d'automne en général.
S'il y avait un match peut-être à essayer de gagner, je pense que c'était peut-être celui-là. Et par contre, le deuxième match, c'est à Wellington samedi prochain, et le troisième à Hamilton. Alors là aussi, la punition, c'est de ne pas jouer à l'Eden Park, puisque...
Alors c'est un choix des Néo-Zélandais qui n'arrivaient pas à vendre suffisamment de billets aussi hein, pour
voilà et puis quand ils en suivent ils peuvent pas vendre des billets parce que c'est l'équipe France B voilà. Ou C comme ils appellent là-bas Le dernier match se disputera à Hamilton au sud.
Ils ont aussi contribué à cet état de fait, puisqu'ils ont tellement décrié et critiqué cette équipe de France qu'ils ne pouvaient pas non plus s'attendre à remplir les stades.
Mais on le sait également que parmi les jeunes, là, qui ont eu la première cape, là, ils jouent tous en top 14 tous les week-ends. Ils jouent tous en top 14, que ce soit à Bayonne, que ce soit à Toulon, que ce soit à La Rochelle. À Bayonne, par exemple, le demi d'ouverture, second, il jouait pour la première fois alors qu'il a été excellent, il a été très très bon. Donc il y a vraiment du potentiel.
De manière générale,
l'embarras du choix.
On a senti cette équipe de France très concernée, très disciplinée. On a senti qu'il y avait beaucoup de concentration. Alors on l'a dit, la moitié de l'équipe honorait sa première cape, mais on les a trouvés très sérieux, très disciplinés, alors que ça peut être souvent un défaut et de jeunesse et un peu français aussi qu'on retrouve. Et là, on les a trouvés très très sérieux. Ils n'ont pas donné de points gratuits. Si on peut dire ça comme ça, donc ils ont vraiment fait une très très belle prestation.
Et je crois que les Néo-Zélandais, ils auraient dû se méfier, parce qu'avant de partir en Nouvelle-Zélande, ils avaient disputé un match amical contre les Anglais, et on avait battu les Anglais à Twickenham de 2 points, donc ils auraient peut-être dû se méfier. C'est la même équipe qui a commencé déjà un petit peu à prendre confiance et à prendre conscience de la possibilité. Donc voilà, en tous les cas, rendez-vous samedi prochain, mais j'ai peur que les Néo-Zélandais vexés. À Wellington, rarement on a été gagné là-bas. Mais croisons les doigts pour que. Sur 42 joueurs, il va faire tourner certainement pour faire jouer une nouvelle équipe et les meilleurs alignés sur le troisième test.
Même s'il y a une défaite au bout, si elle est de la même facture que cette défaite-là, c'est presque une victoire.
Oui, bien sûr. Ça lui permet de travailler pour la prochaine Coupe du Monde qui va arriver vite.
Ça sert aussi de revue d'effectifs.
Oui, revue d'effectifs. Un potentiel. Et puis, encore une fois, je crois qu'ils n'ont pas conscience du niveau du top 14 qui se joue en France. D'ailleurs, ceux qui se sont risqués à jouer en top 14, que ce soit Wilkinson à l'époque, demi d'ouverture, champion du monde de l'équipe d'Angleterre, et même Carter, qui a joué à Perpignan, puis est revenu, il a joué un peu Racing, ils le disent tous, que c'est le top 14, c'est vraiment, on est passé professionnel avec l'esprit des amateurs, une ambiance extraordinaire. Donc, et puis le niveau maintenant,
il y en a un qui connaît le top 14, c'est Scott Robertson, qui a joué à Perpignan.
Qui tenait
absolument pas le même discours que les journalistes néo-zélandais avant le match et qui continue lui à tenir le même discours.
Et qui est le nouvel entraîneur des Blacks pour la prochaine Coupe du Monde. Donc lui aussi. Mais bon, c'est dommage qu'il y ait cette polémique alors que ça ne valait pas le coup.
On l'a déjà fait un petit peu, mais on va quand même revenir un petit peu de dessus. On a parlé de d'Ati Sogbe, dont la presse néo-zélandaise dit que c'est le nouveau Blanco, mais en tout cas. Grosse prestation à l'arrière sur un poste qui n'est pas le sien habituellement. Il a quand même fait une très très belle prestation.
Il joue habituellement trois carrés dans son club et les quelques apparitions qu'il avait fait avec l'équipe de France étaient toujours comme remplaçant et à l'aile. Là, il a bénéficié de la blessure de Barré, Léo Barré à l'arrière. Il a bénéficié aussi des titulaires, des premiums comme Ramos, des Stade Toulousain ou d'autres, soit en repos forcé. Une saison en métropole, je crois qu'on ne se rend pas compte, mais une saison, c'est d'abord les 26 matchs de top 14. Qu'on additionne aux 5 matchs du tournoi des 5 nations, des 6 nations.
Pour les meilleurs, oui.
Et en plus, pour ceux qui jouent pour la Coupe d'Europe, c'est 4-5 tours des fois. Donc les 30 week-ends sont déjà bien meublés sur 48 week-ends de l'année. Donc à un moment donné, on voit surtout, ils dégustent ceux qui sont sur la brèche depuis la Coupe du Monde. Dupont, il est sur le flanc. Peato Mouvaka, il est sur le flanc. Et d'autres.
La saison s'est terminée avec Bielbiaré notamment.
Bielbiaré, le dernier. Donc, à un moment donné, il faut peut-être lever le pied.
Tamac, la liste est effectivement très longue. Deuxième joueur qu'on pourrait mettre un peu en exergue ce soir, c'est Guillard, qui a été très bon.
Extraordinaire. Il a fait un beau tournoi. On l'avait découvert au tournoi des Six Nations, avec son club également. Et c'est un deuxième ligne très léger, sauteur et en même temps coureur, même s'il ne donne pas sa part au chien dans les regroupements, etc. Mais là, il a joué en un poste inhabituel aussi pour lui, numéro 8. Il a vraiment excellé. C'est vraiment le très, très, très bon joueur.
Bon, et bien on va suivre cette tournée encore samedi prochain à Wellington, donc pour ce deuxième match. Et on va voir si l'équipe de France rajeunit, ou en tout cas cette équipe de France B, C, on ne sait pas comment on doit l'appeler, va tenir tête encore au,
c'est l'équipe de France.
Au All Black.
Du moment.
On va regarder ça avec beaucoup d'attention. On va passer au cyclisme avec vous, Riccardo Baroni. Le Tour de France, ça y est, a débuté samedi avec une première arrivée au sprint pour Philippe Sen, le Belge, devant Guirmay, le maillot vert de l'année dernière. Première étape où il y a eu pas mal de qui a été assez animé, hein.
Oui, ça a été très animé avec des bordures. Une bordure qui a fait qu'il y a environ 40 coureurs qui se sont retrouvés en tête.
Alors j'allais y venir, il va falloir expliquer à nos auditeurs ce qu'est une bordure pour les non-spécialistes.
Alors, une bordure, c'est le vent qui vient de côté et les coureurs se mettent en une disposition assez particulière où il y a très peu de coureurs qui sont abrités, et donc si on n'est pas dans la bordure, on se retrouve face au vent et la bordure roule beaucoup plus vite que les coureurs qui sont face au vent. Donc quand une équipe décide de mettre en place une bordure, c'est toujours avec un vent de côté et non un vent de face ou vent dans le dos. Et quand une équipe met ça en place, si on n'est pas vigilant, on se fait piéger, comme l'a été Remco qui visait peut-être de prendre le maillot dans le contre-la-montre qui va avoir lieu bientôt. Il a déjà perdu plus de 30 secondes, donc ça va être compliqué pour lui. Mais bon, il est rassuré pour la simple raison que d'autres coureurs qui visent le podium du Tour de France se sont eux aussi fait piéger. Donc à l'arrivée, il était un peu déçu, mais pas complètement. Mais il y avait des coureurs, dont deux autres coureurs qui sont des grands sprinters, comme Philipsen et Milan, qui visaient de prendre le maillot jaune le premier jour. En gagnant le sprint, ben, ils se sont fait piéger par cette bordure et ils n'ont jamais réussi à revenir devant.
Donc, beaucoup d'animation quand même dans cette première étape.
Cette première étape, on a eu aussi du spectacle, une chute pour un sprint au Grand Prix de la Montagne sur du pavé entre deux Français. Où j'ai vraiment apprécié, c'est qu'à l'arrivée, ils se sont revus, ils se sont expliqués. Il n'y a pas eu, pas de polémique. Et donc, c'était vraiment apprécié et j'ai trouvé ça très sportif. Ce qui me plaît dans ce début du Tour de France, c'est que, comme l'avait expliqué un coureur cycliste connu sur le territoire, qui a été professionnel pendant plusieurs années, Yaroslav Popovic, c'est que le début du Tour de France, il y a des coureurs qui arrivent, ils sont déjà à 100% parce que pour eux, c'est le seul moyen qu'on les voit et qu'on parle d'eux. Tandis qu'il y a d'autres coureurs comme Pogacar ou Vingegaard ou Remco Evenepoel qui, eux, arrivent avec une condition physique de 80-90% pour après s'améliorer durant les étapes et pour arriver en super forme sur la dernière semaine du Tour de France. Donc ça fait deux courses en une. Ceux qui visent le classement général, ceux qui soient il faut qu'ils soient vigilants pour ne pas être piégés. Et il y a les autres comme Merlier ou Philipsen qui visent, eux, la première semaine de gagner une étape.
Et de porter, pourquoi pas, le maillot.
Là, maintenant, de porter le maillot, c'est quand même devenu restreint, puisque cette nuit, il y avait une étape qui arrivait en montée, et c'est un petit groupe qui est arrivé devant. Et donc, ceux qui sont derrière, pour reprendre le maillot, il va falloir une échappée, parce que même si cette nuit, ça arrive au sprint, la personne qui gagne le sprint ne va comptabiliser que 10 secondes de bonification et ça ne va pas suffire à prendre le maillot du leader.
Donc cette deuxième étape dont vous avez parlé, c'est Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé à Boulogne-sur-Mer devant Pogacar et Vingegaard. Donc il y a déjà, les gros sont déjà aux avant-postes. Hein.
C'est ça, c'était une étape très difficile avec beaucoup d'ascensions et donc ces ascensions ont fait une certaine sélection. Et donc, on s'en doutait hein, que Van Der Poel, dans ce genre d'arrivée, est capable de développer une telle puissance que c'est difficile de rivaliser avec lui. Il a été un petit peu en difficulté dans les précédentes ascensions qui étaient très difficiles, mais cette arrivée au sprint a été vraiment remarquable et impressionnante. Premier, deuxième, comme Paris-Roubaix. Et ça n'a absolument rien à voir, cette étape, avec Paris-Roubaix, mais comme quoi, quand on est champion, on se défend sur n'importe quelle arrivée ou n'importe quelle compétition. Dans cette deuxième étape, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de voir les Français qui ont animé cette étape. Hein. Vraiment, ça fait plaisir de voir des Français qui sont devant, qui n'hésitent pas à attaquer. Kevin Vauclin a attaqué, s'est retrouvé devant, avec un manque d'aide d'un coureur de l'équipe Visma Lease a Bike. chose que je n'ai pas trop compris, et lui non plus n'a pas compris, puisqu'il l'a déclaré tout de suite après l'arrivée, pour quelles raisons il ne l'avait pas aidé. On a vu Julien Alaphilippe, hein, qui reste quand même un grand champion.
Voilà, qui termine cinquième de cette étape.
C'est ça, et on a aussi Romain Grégoire, qui termine quatrième. Donc ça fait plaisir de voir en ce début du Tour de France des Français qui animent et qui ne restent pas cachés dans le peloton. Donc ça donne un certain engouement à cette course.
Bon, si on se projette un petit peu sur les deux prochains jours, quelles sont les deux prochaines étapes ?
Profil de ces étapes, c'est toutes des étapes punchy, ça veut dire des étapes où il faut de la puissance sur une très petite montée ou distance, on va dire, sur une ascension. C'est surtout réservé soit aux sprinteurs, soit à des coureurs. Soit un baroudeur, mais baroudeur, il faut partir de loin dans une échappée, parce que quand ça commence à être difficile, c'est difficile de rester en tête de la course par rapport à un peloton, surtout qu'il y a des équipes, quand on est au bout de deux étapes, qui n'ont absolument rien gagné, qui ne vont pas vouloir laisser partir une échappée. Toutes les échappées qui sont parties jusqu'à maintenant, elles ont toutes été rattrapées, parce qu'il y a des équipes qui viennent et qui savent très bien que s'ils veulent gagner des étapes, c'est au début du Tour de France qu'il faut les gagner, puisqu'après, quand ça va venir très difficile, ça va être réservé à des équipes comme UAE, Visma Lease Bike ou même Remco Evenepoel. Prochaine, on va dire, étape très importante, ça va être le contre-la-montre à Caen. Et donc là, déjà, on va voir un peu les forces en valeur et les forces pour le classement général. Il y avait un coureur qui visait énormément sur ce contre-la-montre, c'est Ganna.
Filippo
Ganna, qui malheureusement est tombé, et ils l'ont arrêté parce qu'il se sentait vraiment pas bien du tout. Donc ça restreint un peu les possibles vainqueurs de ce contre-la-montre.
Oui, Pierre, vous voulez dire un mot ?
Ouais, c'est juste le prochain mano à mano entre Pogacar et Vingegaard, c'est une étape de montagne, c'est dans combien de temps à peu près ?
Pas du tout, ça sera d'après moi le contre-la-montre. Le contre-la-montre, c'est déjà très important. On se rappelle d'il y a ça deux ans, où Pogacar fait deuxième du contre-la-montre, mais il s'est presque pris une minute. Et donc à ce niveau-là, de prendre même 30 secondes, c'est très important. Donc je pense que le contre-la-montre va être vraiment un moment très important de ce Tour de France.
De ce début de Tour de France.
De ce début de Tour de France. Et il y a quelque chose qui est aussi surprenant dans ce début de Tour de France, c'est que l'équipe Visma Lease Bike avec Jonas Vingegaard, ils sont à l'attaque à n'importe quel moment. Ils essayent de déstabiliser Pogacar, qui lui est tranquille, serein, en mettant en place des tactiques. Par exemple, la bordure qui a été faite, c'est eux qui ont initié la bordure, l'équipe Visa Lease Bike. Et après, quand ils ont vu ça, l'équipe vainqueur de l'étape, ils ont donné un coup de main à l'équipe de Jonas Vingegaard. Mais il faut être vigilant, et c'est tous les jours une bataille. On va dire, une équipe essaye d'influencer, on va pas dire intimider, mais essaye d'influencer le reste de la course en mettant en place des stratégies pour déstabiliser ceux qui visent le classement général.
Est-ce que cette tactique de la Visma d'attaque à outrance un peu a pas pour but d'essayer d'affaiblir un petit peu tous les lieutenants de Pogacar ? Pour l'isoler un peu ?
Non, je ne pense pas, puisque les lieutenants qui sont là autour de lui, ils sont là, ils sont sereins. On voit un peu comment a été mise en place la stratégie de l'équipe UAE. Ça veut dire que chaque étape, il décide de mettre deux équipiers autour de Pogacar. Et puis lui, Pogacar, il se débrouille tout seul dans le peloton. Il a ses équipiers autour de lui s'il a un problème et tout. Je pensais qu'il allait être déstabilisé. A priori, ça ne donne pas du tout l'impression. Ce qui m'a semblé qui va à l'encontre de ce qu'il fait d'habitude, c'est que d'habitude, il aime bien jouer, attaquer à n'importe quel moment et tout. Là, il reste tranquille dans le peloton. Il fait le sprint pour essayer de gagner de l'étape et surtout de gagner des bonifications. C'est pour ça qu'on a vu que Jonas Vingegaard, il fait deuxième, puisque ça lui permet de perdre que deux secondes. Il n'est pas resté caché au milieu du peloton.
C'est ça. Bon, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Donc, avec le contre-la-montre, à Caen, vous avez dit qui est Caen exactement, sans mauvais jeu de mots.
C'est de l'humour.
Non.
C'est dans deux jours.
Dans deux jours, donc mercredi. Mercredi soir pour nous, du coup. On va suivre ça donc vraiment avec beaucoup d'intérêt. Et on va passer au tennis maintenant avec vous, Gérard Winter. Ça fait une semaine qu'a démarré le tournoi de Wimbledon, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu une hécatombe en termes de tête de série. On avait rarement vu ça ces dernières années. Là, c'est tombé comme des mouches, si j'ose m'exprimer ainsi. On a eu Zverev, on a eu Musetti, Medvedev, Tsitsipas, pour ne citer que cela. Et ça a été puis dès le premier ou le deuxième tour, quoi. Donc c'est assez inhabituel.
Oui, et certains contre des joueurs français, ce qui est un double exploit. Et c'est vrai que cette année, c'est une vraie hécatombe à Wimbledon. Après, sur cette surface-là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui ont développé beaucoup de puissance dans leur tennis, des utilisations d'effets qui sortent beaucoup les joueurs du terrain et qui n'ont plus peur justement de jouer des grands joueurs. Hein. On voit Alcaraz qui gagne parce qu'il est vraiment solide mentalement. Oui,
mais il lâche un set à chaque
mais
fois.
Mais à chaque fois, il lâche un set et deux contre Fonini au premier tour.
Premier tour.
Donc c'est vrai que cette année, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, ça a été une vraie hécatombe sur les deux premiers tours.
Alors, vous l'avez dit, des joueurs français qui se sont mis un petit peu en évidence, en tout cas sur les premiers jours. On a eu donc Arthur Rinderknecht qui bat Zverev en 5-7 sur deux jours. C'est presque devenu une habitude de ce début de tournoi, là, les matchs sur deux jours. Puisqu'on rappelle qu'à Wimbledon, à 23h, il y a un couvre-feu, il faut arrêter de jouer pour ne pas gêner le voisinage. Donc ils sont revenus le lendemain. On a aussi Gaël Monfils, l'éternel Gaël Monfils, qui a sorti Hugo Humbert en 5-7 aussi. Pour perdre après au deuxième tour sur Fuksovic. Mais on a eu des joueurs français qui se sont bien comportés sur les deux premiers tours, ce qui n'est pas forcément toujours le cas sur les autres tournois du Grand Chelem. Mais Wimbledon l'aurait eu aussi plutôt bien habituellement.
Oui, après on peut...
Après, si on parle des deux premiers tours. Hein.
Oui, voilà. Après on peut regretter que, comme un joueur comme Arthur Rinderknecht, après la perf qu'il fait, qu'il ne continue pas son chemin.
Alors il gagne le deuxième match encore en 5-7. Hein, ouais. Et il perd ouais. sur le Polonais dont je me garderai bien d'essayer de prononcer le nom. en 3-7 cette nuit. Mais voilà, il a fait ses trois tours malgré tout.
Mais voilà, c'est quand même bien. Je veux dire, sur le début du tournoi, ils ont été présents. Il y a eu d'ailleurs plus de... Et j'ai noté aussi, en fait, c'est ceux qui sont souvent présents, même si quand on arrive au troisième tour, les joueurs sont bien réglés et c'est plus difficile d'aller gagner.
Puis on arrive sur les têtes de série. Mais si
voilà,
on
arrive sur les têtes de série si elles ne sont pas tombées avant. Mais voilà, on a retrouvé un contingent de joueurs français. Espérons que ça leur donne des idées et que je dirais que c'est un peu à l'image des Italiens dont on parlait très peu il y a quelques années. Et est-ce que c'est le phénomène Sinner qui leur donne des ailes? Mais en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'Italiens qui ont un très très haut niveau et qui sont capables de passer plusieurs tours dans les grands chelems.
Et bien d'ailleurs, ils sont trois à jouer les huitièmes de finale dans le haut du tableau ce soir. Il y a bien évidemment Jannik Sinner qui va affronter Dimitrov, il y a Sonego qui va jouer Shelton, et il y a Coboli qui est là, qui va jouer l'ancien le croate Cilic. Donc trois Italiens quand même sur cette partie de tableau, donc on n'est pas exclu que...
Avec Musetti qui a contre-performé quand même, qui était en
tour,
forme.
Absolument.
Voilà,
donc trois Italiens, on pourrait retrouver un duel transalpin sur les quarts ou pourquoi pas les demi, même si oui Gérard.
Oui, je disais franchement les Italiens ils me surprennent beaucoup et je pense que ça a été une dynamique qui a été mise en place avec de bons joueurs, ça restait des bons joueurs, mais là il y a une prise de confiance, ils ont gagné des matchs et puis et maintenant on les retrouve régulièrement dans les dernières place des tournois.
Ça fait quelques années effectivement que le tennis italien est presque le plus représenté dans le top 100. On se retrouve quand même avec les favoris, les gros favoris qui sont là. Si on doit en nommer deux, il y a évidemment Sinner et Alcaraz, mais il ne faut pas enterrer un certain Novak Djokovic qui a dit lui-même que c'était sa meilleure chance de remporter son 25e Grand Chelem.
Oui, et puis je pense que dans son esprit, ça doit être sa meilleure et sa dernière chance. Parce que malgré tout, il se rapproche maintenant de la quarantaine. Et bon, ceci dit, quand on le voit jouer, on se rend compte encore qu'il a une couverture de terrain et une condition physique exceptionnelle. Donc c'est certainement le plus professionnel des joueurs qui...
Et de loin.
De loin, qui pour tenir à ce niveau-là. Et sur les peu de matchs où je l'ai vu, là encore sur les premiers tours... On sent qu'il y a un sacré niveau et que c'est lui. Par contre, c'est difficile de le faire douter dans les premiers matchs. Là,
oui, on sent qu'il est là. Voilà, il a compris que c'était peut-être pas sa dernière chance, mais pas loin de prendre un dernier grand chelem. Donc il va jouer sa carte à fond. Et on est sur éventuellement un Sinner Djokovic en demi-finale. Bon, sachant que là, il a un tour contre Deminor Djokovic ce soir, donc pas si simple que ça. Mais sur ce qu'il a montré depuis le début de la semaine, il devrait quand même passer, je pense.
Voilà, Deminor, c'est un joueur intéressant parce qu'il est très rapide. Je pense qu'il est ambitieux, il n'est pas loin. Et aujourd'hui, ces joueurs-là se disent que contre Djokovic, ils ont une chance. Je pense qu'il y a encore 3-4 ans, ils se disaient « bon, bah, le tournoi est fini pour nous ».
Oui, le but étant de ne pas prendre 3 bulles.
Voilà, ou de ne pas prendre une raclée. Je pense que Deminor, voilà, il a une chance. Maintenant, c'est vrai que je donnerais Djokovic favori, mais bon, après, il y aura l'écueil Sinner.
Alors, dont on ne parle pas beaucoup depuis le début du tournoi, hein, il lâche très très peu de jeux, il est très sérieux. On sent qu'il soigne sa communication aussi, mais ce n'est pas sa surface, on le sait. Donc, comment vous sentez-vous, Jannik Sinner, sur ce Wimbledon 2025?
Moi, je le sens vraiment, je le sens très très costaud. Effectivement, sur des surfaces comme ça qui sont rapides, il perd très peu de jeux. Alors, c'est son habitude aussi, il est solide. C'est un peu le jeu de Djokovic il y a quelques années, peut-être en tapant un peu plus fort, mais sans donner de points.
Une prise de balle très tôt.
Très tôt, il ne donne pas de points. Franchement, on le sent très très bien. Et je serais curieux de revoir une finale sur gazon à l'identique de celle qu'on vient de vivre à Roland-Garros, sur une surface qui va, même si un peu plus lente qu'il y a quelques années, d'après les commentaires des joueurs.
Voilà, beaucoup plus lente.
Mais qui ira plus vite que la terre battue. Et ça pourrait donner quelque chose de, je dirais, qui se rapproche presque du tennis de table, hein, tellement ça va vite, quoi.
Si on revient sur la partie basse du tableau, donc on aura en quart de finale Alcaraz qui va jouer le Britannique Norrie qui s'est extrait de cette partie de tableau. Et un joueur dont on parle assez peu, qui a pioché en ce début de tournoi, c'est Taylor Fritz, mais qui s'en est sorti et qui vient de filer en quart contre Khachanov. Donc on pourrait avoir une demi Fritz-Alcaraz. Fritz, oui. Il est là, il fait pas de bruit, mais il est là.
Oui, et puis je pense qu'il a remporté un tournoi sur gazon récemment.
Juste donc, avant, effectivement.
Voilà, il se débrouille plutôt bien sur cette surface. Je pense que c'est un joueur, ouais, qui, je le vois pas gagner le tournoi, mais il peut aller inquiéter les deux meilleurs, qui sont Alcaraz et Sinner.
On rappelle, il était finaliste de l'US Open l'année dernière, hein, donc il est du Masters, donc il est là. On va s'intéresser un peu au tableau féminin, avec la grandissime favorite qui est Aryna Sabalenka, qui a eu un petit peu plus de mal là, face à Emma Raducanu sur son dernier match, mais qui s'en est sortie, qui est là, qui tient son rang.
Oui, alors c'était un beau match, parce que Raducanu, elle a quand même balle de 7 au premier, elle mène 4-1 au deuxième, un beau tennis vraiment qui est orienté sur le jeu vers l'avant, avec une belle volée, mais ça montre encore une fois que Sabalenka... Il y a un cran au-dessus, même quand elle ne joue pas au mieux de son tennis, elle est capable à un moment donné d'arrêter l'hémorragie et de se concentrer suffisamment sur les points importants pour faire basculer la rencontre.
C'est ça, elle était menée 4-1, elle emporte 6-4, donc 5 jeux d'affilée. Il y a Iga Swiatek qui est un peu dans l'inconnu, qui n'a pas gagné de tournoi depuis plus d'un an, qui a fait une finale juste avant, là, je crois que c'était à Iceborne. Mais qu'on sent quand même fragile, si je peux le dire ça comme ça, pas sereine, pas aussi sereine qu'elle ne l'était en tous les cas ces deux dernières années. Comment vous la sentez? Elle fait plus figure d'outsider que de favorite finalement.
Oui, tout à fait. Là maintenant, elle est vraiment outsider à une époque où elle dominait vraiment le tennis. Et bon, elle a quand même une chance que le tableau en bas s'est dégarni avec l'élimination de Coco Gauff.
Exactement.
Donc je pense qu'elle essaiera de saisir sa chance pour aller jouer. Certainement Sabalenka en finale s'il n'y a pas de surprise, mais c'est vrai qu'elle est moins constante, même moins confiante surtout.
C'est ça, on sent que ça gamberge beaucoup.
Oui, hein. Ouais, tout à fait.
Alors elle n'est pas encore en finale, hein, même si on lui souhaite, mais il y a Towson, la Danoise qui fait un très gros tournoi, et puis éventuellement si elle passe, il y a Navarro ou Andreeva derrière, donc le chemin est quand même plus que parsemé d'embûches pour Swiatek pour aller jusqu'à la finale.
Oui, c'est vrai qu'Andreeva, qui est septième actuellement, c'est une belle joueuse qui est puissante, un beau gabarit. Et je pense que sur gazon, elle peut elle aussi, Andreeva, aller atteindre la finale de ce Wimbledon 2025.
Bon, eh bien, on va suivre ça aussi avec beaucoup d'attention et on va voir si vos pronostics d'aujourd'hui s'avèrent bons dimanche prochain et samedi prochain. Mais si on va passer au bref de cette semaine, puisque le temps tourne, et on va parler un petit peu football avec la Coupe du Monde des clubs. Le PSG a eu du mal, mais le PSG s'en est sorti. Pierre, vous voulez vous y coller, vous qui êtes un grand fan du PSG?
Alors, très honnêtement, je n'ai pas regardé autre chose que le rugby. Et j'ai appris que évidemment ils avaient gagné. Hein,
2-0 contre le Bayern, donc un match très disputé, très tendu. Ils ont fini à 9 contre 11, effectivement. Avec
j'ai un conseiller football de François
Lumary, qu'on connaît bien sur ce plateau.
Voilà.
Gérard, du coup, vous avez suivi un petit peu?
Moi, je suis parce que, oui, bon, surtout le PSG de ces derniers mois, je veux dire, c'est quand même spectaculaire à regarder. Donc, je n'ai pas vu tout le match, mais j'ai vu des moments phares du match. Content qu'il soit passé. J'attends avec impatience la rencontre contre le Real. Non pas pour dénigrer Mbappé, mais pour rappeler quand même que l'entraîneur Enrique a toujours dit on sera plus fort sans lui. Et du coup, ça prouve que le travail de l'entraîneur auprès de son équipe et cette solidarité qu'on retrouve dans le groupe est vraiment intéressante avec... des joueurs qui deviennent des vedettes, mais qui ne sont pas des vedettes telles que comme Mbappé ou comme on a pu en connaître autrefois.
Oui, Ricardo.
Moi, dans le match du PSG contre le Bayern, ce qui m'a choqué, c'est l'intervention de Donnarumma sur l'attaquant
sur Musiala.
Allemand. Et donc, ça, quand on voit les images après et les photos, ça fait quand même assez peur. Et Donnarumma a été très choqué. Moi, quand j'ai vu cette intervention, j'ai pensé à la fois où il s'est pris une chaussure dans la figure de Donnarumma. Donc, les gardiens qui interviennent sur les attaquants, c'est vrai que c'est un gros danger. Mais eux aussi, parfois, durant les matchs, vivent des moments très difficiles. Ça a été difficile pour Donnarumma. J'ai lu un peu la presse italienne. Il a eu de la difficulté à re-rentrer dans le match après cette intervention, puisque ça reste quand même un jeu, le football. Mais après, il est allé voir l'entraîneur. Il s'est excusé. Et je pense que ce n'était pas voulu de sa part.
Alors, c'est jamais intentionnel, mais on oublie aussi de temps en temps que le football est aussi un sport de contact et que voilà, il peut y avoir des contacts. Hein. Vous l'avez dit, Singo, l'attaquant monégasque, lui avait un petit peu fait un lifting il y a quelques mois maintenant. Voilà, ça marche parfois dans les deux sens. Malheureusement, Musiala s'est retrouvé avec la jambe coincée sous Donnarumma, qui fait quand même 1m96 et à mon avis un petit 100 kg. Donc forcément, 4 à 5 mois d'absence quand même pour Musiala, fracture du péroné. Voilà, les images étaient assez difficiles, mais ça fait aussi partie du métier de sportif et de footballeur que d'être blessé. Donc on l'a dit, le PSG va jouer le Real Madrid. Jeudi matin.
Comment on se retrouve?
Ben voilà. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a un nouvel entraîneur au Real qui s'appelle Xabi Alonso, qui est en train de mettre sa patte, un peu comme Luis Enrique a mis sa patte sur le PSG, et qu'ils sont un certain nombre d'entraîneurs à vouloir jouer un peu comme le PSG dans ce moment, mais c'est ce qu'a fait Xabi Alonso avec le Bayer Leverkusen depuis 2 ans. Donc, on va voir comment ça prend avec le Real, mais en tout cas, c'est presque une finale avant l'heure. Sans faire injure aux Fluminense de Thiago Silva et à Chelsea qui sont dans l'autre demi-finale. Un petit commentaire dernier, messieurs, sur cette Coupe du Monde des clubs, non ?
Moi, je ferai un commentaire très général sur le football espagnol, hein, qui a produit et qui continue à produire d'excellents joueurs dans les grandes compétitions. Et puis, ces mêmes joueurs, ils se reconvertissent en des entraîneurs, évidemment. Hein. C'est bien. Je voulais le noter parce que ça me... Vous avez cité Xabi Alonso maintenant qui est au Real de Madrid, Lucien Riquet qui est au Paris, et on voit les résultats des...
Un certain Pep Guardiola à Manchester City.
Voilà, Guardiola à Manchester City, donc vraiment...
Bon, la semaine footballistique a aussi été marquée par une nouvelle beaucoup, beaucoup très triste qui a vraiment choqué tout le monde. C'est la disparition de Diogo Jota, le joueur de Liverpool, et de son frère André Silva dans un accident de voiture en Espagne. On a vu, hein, les hommages se sont succédés un peu à travers tout le monde, des hommages assez incroyables, des images folles à Liverpool.
Tragique accident, ouais. Mortel en plus, tous les deux frangins. Voilà, apparemment, donc... c'est un pneu qui aurait éclaté, et évidemment, la voiture est sortie, a tapé dans un rail et a chaviré. Donc...
Voilà, donc un petit, ouais. Une pensée pour tous ceux qui suivent Liverpool et qui aimaient ce joueur, qui était un joueur extrêmement talentueux. On va terminer cette émission en parlant de Formule 1. C'était le Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end à Silverstone, avec des enjeux qu'on avait évoqués la semaine dernière ici avec Grégory Sirg. Quatre pilotes britanniques, une écurie britannique. Eh bien, c'est un pilote britannique qui s'imposait, Lando Norris, chez lui, donc devant Oscar Piastri, et Nico Hülkenberg, qui est la surprise, sur Kick Sauber. Et Hamilton, quatrième sur la Ferrari, ça progresse petit à petit. Gasly, sixième, ça c'est des points importants pour l'écurie alpine. Ocon, 13e, Leclerc, 14e, Hadjar n'a pas terminé la course. C'est la quatrième victoire de la saison pour Norris. Et Piastri n'a plus que 8 points d'avance sur son coéquipier, Ricardo Baroni.
Ce qui m'a surpris dans ce Grand Prix, c'est que j'espérais que l'arrivée de la pluie change un peu le classement qu'on a l'habitude de voir. Ça veut dire que les deux McLaren arrivent devant. Surtout qu'on a été très impressionnés par la qualification de Verstappen.
C'est ça qui
a vraiment
pris la pole.
Quelque chose d'exceptionnel, et j'espérais un peu de rivalité avec les deux McLaren qui étaient devant, surtout qu'il y a un des pilotes qui a été pénalisé, donc c'est pour ça qu'il termine deuxième. L'arrivée de la pluie n'a pas changé le classement, donc je pense que ces voitures sont vraiment au-dessus du lot et que...
Elle n'a ni changé le classement, ni changé les écarts, c'est-à-dire qu'ils sont devant et largement devant.
Donc je pense que pour le championnat du monde des pilotes, ça va être entre les deux. Je ne vois pas trop d'autres équipes pour rivaliser avec eux.
Non, pas pour l'instant en tous les cas. On fera juste une petite aparté en disant que Gasly a fait finalement un bon week-end. Sixième en course, huitième en qualif. Si ça pouvait être comme ça tous les week-ends, je pense qu'on signerait tout de suite du côté de chez Alpine. Messieurs, on va terminer par vos coups de cœur. Gérard Winter, on va commencer par vous.
Alors moi, c'est...
Coup de cœur ou coup de griffe d'ailleurs, comme vous
non,
voulez.
Coup de cœur. C'était... J'ai suivi tout le match de Alcaraz contre Fognini. Et franchement, ça a été de toute beauté. Fognini a produit un tennis exceptionnel. À 38 ans, il a été capable d'amener Alcaraz au cinquième set. Alors après, peut-être que physiquement, c'était un peu dur. Mais en tout cas, en termes de spectacle et de niveau de jeu, ça rappelle des moments où Federer, dans l'élégance, dans le jeu. Et donc, c'est un coup de cœur pour ce joueur italien qui est sur la fin de sa carrière, mais qui est toujours capable de produire... un tennis exceptionnel.
Et qui s'est presque fait une spécialité d'embêter les joueurs espagnols, parce que c'était une des pires bêtes noires de Rafael Nadal aussi. Ricardo Baroni, votre coup de cœur ou votre coup de griffe de cette semaine ?
C'est un double coup de cœur pour le même compétiteur, Kevin Vauclin, qui est un coureur français à l'attaque, qui a peur de personne. Et pourquoi un double coup de cœur ? C'est qu'il est dans une équipe qu'on ne sait pas si elle va continuer l'année prochaine, une équipe française, Arkea, BNB Hotel, donc voilà, ça fait plaisir de voir des jeunes, parce qu'il est très jeune, français à l'attaque et sans aucun complexe vis-à-vis des champions.
Bon, on espère que les Français vont prendre quelques étapes sur ce Tour de France 2025. Pierre, votre coup de cœur de cette semaine ?
Coup de cœur à Ethan Dumesnil, hein, c'est un pur produit de la natation calédonienne, hein, qui continue à produire des champions, qui a fait d'excellents championnats de France, qui a été qualifié pour les championnats du monde bientôt à Singapour, et pas des moindres, puisqu'il est dans les mêmes nages et les mêmes distances que Maxime Grousset, mais il a fait des très beaux championnats. Et puis là, les dernières infos font qu'il va partir ensuite aux États-Unis, à l'université de Tennessee, je crois. Donc un coup de chapeau pour le gosse, et puis surtout un clin d'œil à son papa, Gilles Dumesnil, hein. Le gosse, il a de la chance parce qu'il a vraiment un papa qui a fait du très haut niveau et qui va continuer à l'accompagner dans ses différents
chemins. Ça aide toujours.
Ça aide beaucoup. Voilà.
Eh bien, messieurs, merci à tous les trois d'avoir été avec moi ce soir. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable.